Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Microsoft Virtual Academy pour cette nouvelle session d'introduction à Azure IaaS. Je suis accompagné aujourd'hui de Stanislas et de Pascal. Bonjour.
Bonjour Arnaud.
Bonjour Arnaud.
Et on va avoir le plaisir de vous accompagner durant ces prochaines heures pour effectivement vous donner tous les trucs pour très bien démarrer avec Azure IaaS, tous les services de IaaS. En gros, on va passer ces prochaines heures à revoir toutes les fonctionnalités, comment est-ce qu'on les met en œuvre. Et puis ça va être plutôt sympathique avec pas mal de démos et d'exemples. Plutôt cool.
Donc, l'objectif est clair, tu as commencé à le dire, c'est de définir ce que sont les services d'infrastructure de service, le IaaS, dans Microsoft Azure, qui est la plateforme de Microsoft, cloud de Microsoft. On va expliquer durant ces différents cours comment étendre et faire évoluer votre infrastructure en cloud hybride, c'est-à-dire utiliser, je dirais, le meilleur des deux mondes, une partie de choses que vous avez déjà dans votre data center, et étendre ses capacités avec des choses qui sont dans nos data centers, mais que vous allez consommer et configurer. Et bien entendu, on va regarder un petit peu avec quelle technologie on peut faire ça. Technologie soit du côté data center, soit du côté cloud, et comment interagir entre ces deux technologies.
Alors dans le détail, on va commencer pour faire des rappels rapides sur les fonctionnalités, les grandes fonctionnalités du cloud, donc les grands principes du cloud et de Azure en particulier. L'approche globale de Microsoft en ce qui concerne les clouds hybrides et internes et donc public en termes de cloud hybride. On va voir ensuite une partie sur les outils d'administration, donc comment on va administrer nos clouds dans Azure, à savoir donc les interfaces web, lignes de commande, automatisation, etc. Ensuite, on va s'intéresser aux machines virtuelles, puis aux réseaux sur lesquels on va brancher ces machines virtuelles qu'on va installer dans Azure. Évidemment, le stockage qui va héberger les données de ces machines virtuelles. Et puis enfin, Active Directory, comment on va faire tourner nos Active Directory dans nos environnements hybrides, internes et Azure. Et puis on terminera par une petite synthèse de tout ce qu'on aura vu dans ce cours.
Eh bien, c'est parti. Quelques rappels sur le cloud, histoire de savoir de quoi on parle et être sûr qu'on parle exactement de la même chose, parce qu'il y a plein de variations, hein, selon ce qu'on a à vous vendre en général. On va avoir chacun une définition propre du cloud. Donc, dans un premier temps, le cloud, les différents modèles de services. Qu'est-ce qu'on a ? On a le software as a service, premier modèle. En gros, on vient avec ses données, l'intelligence est apportée par l'application qui est hébergée dans le mode cloud. On a ensuite le mode PaaS, plateforme as a service. Cette fois-ci, on vient avec son code qu'on va exécuter sur la plateforme. Et puis le dernier mode, infrastructure as a service, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Et là, en gros, globalement, on vous fournit des éléments standards d'une infrastructure, c'est-à-dire du réseau, de la puissance de calcul et du stockage. Et puis après, c'est vous de fournir tout le reste, c'est-à-dire vos machines virtuelles, comme vous avez l'habitude de les exécuter au sein de votre data center.
Donc, la question derrière, après, c'est qui est responsable de quoi et qui contrôle quoi ? Eh bien, en fonction des strates du modèle de cloud que vous allez sélectionner, SaaS, PaaS ou IaaS, vous aurez plus ou moins de contrôle. Donc, effectivement, si on compare une informatique sur site dans vos data centers, eh bien, vous êtes propriétaire de l'ensemble de la pile, c'est-à-dire allant des couches très basses, les câbles réseau, le stockage, les serveurs, jusqu'aux données. La seule chose que vous allez peut-être partager à quelqu'un, c'est peut-être le routeur du fournisseur d'accès ou des fournisseurs d'accès. A l'inverse, quand on sera dans du SaaS public, du software de service, finalement, vous ne contrôlez que les données que vous allez mettre dans cet applicatif, qui est donc géré entièrement par le fournisseur de cloud. Entre les deux, effectivement, on a le IaaS public ou le PaaS public, et là, en fait, le niveau de contrôle va dépendre simplement, c'est que dans du PaaS public, on expose en fait une plateforme prête à l'emploi, donc par exemple un service web ou un système de base de données, mais effectivement, vous êtes responsable en tant que client du service de cloud, des applications, et des données qui seront donc exécutées sur cette plateforme. Si on est sur de l'infrastructure de service public, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui principalement, eh bien le niveau de contrôle va s'arrêter au niveau de ce socle de virtualisation qui est en fait la plateforme de IaaS. Donc virtualisation de stockage, de réseau, de machines virtuelles. Donc ça veut dire que vous êtes à 100% responsable de la manière dont vont tourner les applicatifs et les systèmes d'exploitation dans ces machines virtuelles. Vous en êtes responsable pour la mise à jour, pour la sécurité, etc. Voilà. Donc Azure, de toute façon, se positionne vraiment à ce niveau-là, IaaS ou PaaS. Et effectivement, en fonction de votre besoin de contrôle ou votre dépendance ou pas en termes de responsabilité, vous allez sélectionner un modèle ou l'autre. Nous, on va plus passer de temps sur la partie infrastructure de service et on va voir comment effectivement la monter en hybride.
Donc comme tu le dis, Stan, Azure fait partie de l'offre de cloud public de Microsoft. Parmi cette offre de cloud public, on a d'autres offres, notamment au niveau SaaS. Office 365, Microsoft Intune et Microsoft Dynamics sont trois exemples de ce qu'on offre en termes d'applications SaaS dans le cloud. Et puis dans le cloud privé, on a également évidemment des solutions entre guillemets historiques comme Windows Server et System Center qui permettent de supporter ces infrastructures de type cloud privé. Et on va voir juste après qu'on a un nouveau modèle également de cloud privé qui arrive et qui s'appelle…
Et qui s'appelle Azure Stack cette fois-ci. Alors pour être un petit peu précis effectivement en matière de lexique, hein, on a bien Microsoft Azure qui est le service de cloud public. Et puis on a son pendant en matière de cloud privé qui s'appelle Azure Stack ou Windows Server plus System Center qui fournissent le cloud privé. C'est-à-dire qu'en fait, on aura une manière de décrire des ressources qu'on va vouloir déployer. Et puis, on aura le même langage qui sera utilisé pour déployer des ressources soit dans le cloud public, soit dans le cloud privé. C'est vraiment ce modèle qui est super intéressant. Ça veut dire que je vais coder en fait mon infrastructure, je vais coder mes VM, mes load balancers, toutes les ressources qui sont nécessaires pour déployer un service. Et puis, je pourrais aussi bien choisir de le déployer dans le cloud privé ou dans le cloud public. Après, c'est à moi de résoudre l'équation. L'équation, elle peut être financière, elle peut être légale selon le type d'activité que je veux héberger. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'entre ces deux mondes, entre le monde du cloud public et du cloud privé, il y a tout un ensemble de synergies et de choses qu'on peut faire très facilement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir très bien prendre des ressources dans mon cloud privé et puis les faire continuer, faire que Azure, par exemple, me serve comme plan de reprise d'activité. Je vais pouvoir évidemment tirer parti de l'identité que j'ai déjà mis en œuvre au sein de mon organisation depuis des dizaines d'années maintenant avec Active Directory. Je vais pouvoir utiliser cette identité, la consommer et la projeter dans le service de cloud. Et puis naturellement, sur des briques beaucoup plus fondamentales et bas niveau, ce sera exactement la même chose pour les VM, pour le stockage et pour le réseau, les mêmes types de ressources.
Alors, cette plateforme de Microsoft, finalement, donc, on l'a déjà introduit le sujet, elle est vraiment divisée en deux parties. D'un côté, l'infrastructure de service et de l'autre, le plateforme de service, qui ne parle pas forcément toujours même personne. Hein, on va dire les gens plutôt orientés infrastructure, production, gestion de serveur, auront plus une affinité naturelle avec l'infrastructure de service qui va contenir des machines virtuelles Windows, Linux, du stockage virtualisé, des réseaux virtuels, des réseaux privés virtuels pour des interconnexions. Alors, toute cette notion d'identité, de backup et de solutions d'automatisation disponibles dans l'infrastructure de service. Côté plateforme de service, ce sera plutôt orienté pour, on va dire, du monde de développeurs, plateforme web plus, mais de développeurs ou de DevOps. Et là, on parle plus de composants web, de composants mobiles, d'analytique pour la partie, effectivement, data, de services de médias, etc. Et puis, dans tous les cas, qu'on soit sur du IaaS ou du PaaS, les fondamentaux, l'infrastructure qui est sous-jacente derrière les data centers, c'est les mêmes. On n'a pas séparé les services dans des data centers et des régions différentes. Tout est, effectivement, supporté par les mêmes matériels. Et que l'on soit sur du IaaS ou du PaaS, on va pouvoir utiliser des outils et des langages de programmation qui sont communs. Donc PowerShell, c'est commun, Terminal, Team Foundation Server aussi, les repositories de type Git, on peut le faire. Et puis on peut également tout exposer sous la forme d'API. Donc les développeurs peuvent effectivement faire du pilotage ou de l'application qui va consommer du IaaS ou du PaaS au travers des différentes API et au travers des différents SDK. On a des SDK pour les langages Microsoft historiques, .NET, mais on en a également pour Java, on a des choses en Node.js, en PHP, en Python, en Ruby. En gros, tout le monde est ouvert. Rappelons-nous qu'effectivement, avec la plateforme Azure, Microsoft vend de la ressource et on est assez agnostique de ce qui se passe au-dessus, donc on est vraiment décomplexé quant au workload et ce qui va tourner en fait sur Azure. L'idée, c'est surtout de consommer de la ressource, quelle qu'elle soit. Pardon.
On voit là un ensemble assez complet des éléments qu'on va trouver dans Azure. Dans le premier élément qu'on va entourer, il s'agit des services de base de l'infrastructure. On va retrouver donc le compute, à savoir les machines virtuelles en gros, hein, le réseau et le stockage. Donc on va trouver toutes les briques de base permettant de faire de l'infrastructure as a service dans Azure. Ensuite, prochain élément mise en avant, la sécurité et le management, donc tous les éléments qui vont bien pour faire de la sécurité, alors par exemple de l'authentification, basée sur Azure Active Directory, donc qui est une forme d'Active Directory directement dans le cloud, et puis l'automatisation pour tout ce qui est management, etc. Le compute, on a également quelques services comme les remote apps, tiens, citons les applications, donc on va accéder à distance via un déport d'interface graphique du type remote desktop. Et puis enfin, le dernier élément auquel on peut s'intéresser, ce sont tout ce qui permet de faire des opérations hybrides, comme par exemple le backup. On va se servir du cloud pour faire du backup d'infrastructures qu'on aura en local et dont on va déporter le backup dans le cloud. Exemple, par exemple.
Alors, quand on parle de cloud, une des choses qui compte, c'est évidemment la taille. Et avec Azure, on a vraiment une étendue qui est mondiale. Alors, on appelle ça des régions. En fait, ce qu'on appelle des régions, ça va être un emplacement géographique dans lequel on a implémenté plusieurs data centers. Donc, la région, par exemple, North Europe ou la région West Europe sont un groupe de data centers qui sont présents et qui desservent l'Europe. Donc, ceux qu'on utilise le plus fréquemment ici, mais il y en a évidemment présents sur toute la planète. On est entre 24, 28 régions à l'heure actuelle qui sont en ligne. Alors on parle, il y en a peut-être encore plus qui sont présents. Donc évidemment, on étudie les cas où c'est pertinent d'en mettre et puis pour desservir les clients selon différents besoins. Ça représente quoi en fait globalement tout ça? Ça représente plus d'un million de serveurs physiques, donc plus d'un million d'hyperviseurs qui vont héberger des machines virtuelles. Après, le nombre de machines virtuelles qu'il y a au-dessus est encore évidemment beaucoup, beaucoup plus élevé. Ce qui compte, c'est la présence mondiale pour pouvoir desservir les clients et leurs besoins partout où ils sont. En matière de disponibilité de ce réseau, on n'a pas à rougir non plus, puisque on est un des trois plus grands AS en matière de présence sur Internet au monde, donc un des réseaux en fait les plus importants de l'Internet, ce qui assure la robustesse et l'accessibilité, quel que soit l'endroit où on est, quelles que soient les conditions du réseau, on aura forcément un accès qui sera performant.
Alors à quoi ça ressemble un data center? Ben là, on a par exemple un data center qui est celui de Quincy, donc région ouest US, donc nord-ouest des États-Unis. On est à peu près à 3 heures de route de Seattle à l'intérieur des terres. Et ici, en fait, on a effectivement plusieurs data centers dans cette image. En fait, il n'y en a pas un seul, il y en a plusieurs. On a, on va dire, les bâtiments historiques, qui sont des choses assez classiques, c'est-à-dire des grands bâtiments, on voit l'échelle par rapport à des voitures qui vont contenir, là il y en a deux ici, qui vont contenir effectivement les serveurs, les ressources les plus vieilles entre guillemets qu'on ait sur cet ensemble. Là on a une structure tout à fait classique avec un toit, avec de la climatisation, avec toutes les redondances qui vont bien. Et puis si on zoome un petit peu ici, on voit qu'on a des nouvelles structures en termes de bâtiments qui sont assez différentes de l'historique. Là on voit qu'on n'a plus vraiment un bâtiment construit complètement, mais plutôt une grande dalle de béton avec une sorte de colonne vertébrale et des blocs, des containers qui sont reliés dessus. Donc on en a un exemple ici, puis on en a un autre, celui-ci qui est un petit peu plus parlant peut-être. Donc la colonne centrale ici va venir en fait alimenter de l'électricité, du réseau, de la climatisation. Et en fait, l'extension du data center désormais ne se fait plus par recréation d'un gros bâtiment physique, mais plutôt par extension de la dalle de béton et de la colonne vertébrale, entre guillemets, et on vient greffer dessus en fait des containers. Donc ça, c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, à installer et à faire monter le besoin de ressources en fonction. Si on se positionne au ras du sol, en fait, ça correspond à ça, effectivement, ces fameux containers qui contiennent effectivement les serveurs, le stockage, etc.
Donc tous ces data centers, on a le moyen de surveiller leur état de fonctionnement avec un site qui s'appelle status.azure.com et qui vous permet directement d'avoir une vision synthétique de l'ensemble des services de Azure et de leur état de fonctionnement à un instant donné. Et également un historique des pannes qui auraient pu avoir lieu sur vos systèmes.
Alors les points fondamentaux quand on va faire confiance à un système de cloud, à un fournisseur de cloud, c'est évidemment la confiance. Comment est-ce qu'on s'assure que effectivement les disques vont bien être opérés correctement, que les serveurs vont être opérés correctement par un opérateur? Effectivement, cette confiance, elle se trace, entre guillemets, elle se certifie par un ensemble de vérifications de conformité qui sont auditées par un certain nombre d'organismes et qui sont accrédités à différentes échelles, donc soit au niveau global, soit au niveau des États-Unis, soit au niveau régional, donc mise en conformité par rapport à un certain nombre de bonnes pratiques en matière d'opérations. Donc évidemment, les opérations classiques de type PCI, DSS, s'assurer que les disques sont chiffrés, ce genre de choses, tout un ensemble de procédures qui permettent de s'assurer que ce soit opéré correctement, de manière standardisée et répétable partout dans le monde.
Donc plus d'informations pour tout cela, pour si vous voulez aller un petit peu plus loin dans quelle certification, où est-ce qu'on peut voir les preuves, etc. Vous faites une recherche dans votre moteur de recherche préféré, Microsoft Azure Trust Center, vous aurez sur une page qui vous décrira tout ça. Globalement, l'idée quand même d'avoir toutes ces certifications, c'est d'éviter chaque fois qu'un client a besoin de valider dans son cadre qu'il est bien sur un environnement certifié, c'est d'éviter de renvoyer des équipes d'auditeurs dans le data center. Si chacun de nos clients envoyait des auditeurs, ce ne serait plus des data centers, ce serait le Louvre. Donc l'idée, c'est effectivement, à partir du moment où c'est certifié par un organisme reconnu pour un périmètre donné, une fois que c'est tamponné, ça peut être réutilisé et montré. On a les preuves, entre guillemets, que tous ces audits ont été passés, ce qui évite de repasser les audits également.
Rendez-vous dans le prochain module pour commencer directement avec les outils d'administration de tout ça.